Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, au sommaire ce soir. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel maintient la liste des candidats à la présidentielle. Surprise en Guinée après le gel des comptes bancaires et la saisie des passeports des membres du gouvernement dissous. Au Burkina, inquiétude dans les milieux de la presse suite à la mise en place du Conseil supérieur de la communication. Veto américain à l'ONU sur une résolution introduite par l'Algérie pour une trêve immédiate entre Israël et le Hamas. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a publié une liste actualisée des candidats à la présidentielle semblable à une liste antérieure à une concurrente près, semblant ainsi couper court aux demandes de réexamen du processus préélectoral. Dilidico.
Le document publié par le Conseil constitutionnel prend seulement acte du retrait annoncé lundi par Rose Wardini, l'une des deux candidates à la présidentielle qui a dit se retirer de la course en raison d'informations sur sa double nationalité. La nouvelle liste comporte les 19 mêmes noms de candidats validés en janvier. Depuis l'annonce du report de l'élection par le président Macky Sall et l'invalidation de sa décision, le calendrier électoral sénégalais a été bouleversé. Le Conseil constitutionnel a constaté l'impossibilité de maintenir la présidentielle le 25 février et demandé aux autorités de l'organiser dans les meilleurs délais. Le président Sall a dit vendredi son intention de respecter la décision du Conseil. Les Sénégalais attendent à présent de connaître la nouvelle date des élections. Ces événements ont déclenché une nouvelle querelle sur la tenue de la présidentielle avant ou après le 2 avril, date de l'expiration du mandat du président Sall. Mais la dispute a porté jusqu'à là sur une reprise à zéro ou non du processus qui a vu le Conseil constitutionnel homologuer 20 candidatures en janvier.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, 8 personnes ont été tuées hier soir dans la région de Beni dans une attaque attribuée aux rebelles ADF. Nous faisons le point avec Alexandrine Holognon.
Sabiti Diamodja, responsable administratif dans le territoire de Beni, affirme que les rebelles ADF ont fait une incursion à Maïmoya hier soir. Selon lui, 8 personnes, dont 3 femmes, ont été tuées et que l'armée mène des opérations de ratissage dans les environs. Nous appelons nos militaires à prendre leurs responsabilités, car ces derniers temps, il y a activisme des ADF dans Eringeti, Kainama et Kokola, des localités situées du Nord Kivu, a-t-il ajouté. Affiliés au groupe État islamique, les forces démocratiques alliées sont à l'origine des rebelles ougandais musulmans, implantés dans l'est de la RDC, où ils ont tué et enlevé des milliers de civils. Depuis fin 2021, les armées ougandaises et congolaises mènent une opération militaire conjointe, baptisée Shuja, sans parvenir à stopper les attaques. La toute dernière remonte au 6 février, lorsque 11 personnes ont été tuées.
Amnesty International a appelé ce mardi à l'arrêt immédiat des attaques délibérées et aveugles contre les civils au cours des combats qui opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23 autour de Goma. Des combats intenses ont repris en janvier autour de Goma, entraînant la mort d'au moins 35 civils et faisant des centaines de blessés, a déclaré Tigere Chaguta, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Des milliers de civils sont de nouveau pris entre deux feux et ont désespérément besoin d'une aide humanitaire, a-t-il insisté. Plus d'un million de personnes sont entassées dans et autour de Goma, a-t-il ajouté, après avoir fui les affrontements. Par ailleurs, la France a dénoncé ce mardi les atteintes à l'intégrité territoriale de la RDC et les violences contre les populations civiles dans l'est du pays, en appelant le Rwanda à cesser tout soutien aux rebelles du M23 et à se retirer du territoire congolais. La France s'est dit très préoccupée par la situation dans le Nord Kivu et en particulier autour de Goma et de Sake. La RDC accuse le Rwanda et ceux qu'ils appellent ces supplétifs du M23 de vouloir faire main basse sur les minerais de l'Est congolais. Le M23 affirme pour sa part défendre une frange menacée de la population et réclame des négociations que Kinshasa refuse, excluant, disent-ils, de discuter avec des terroristes. Le Rwanda nie soutenir le M23. Au Kenya, les funérailles de Kelvin Kiptum, recordman du monde du marathon, ont été avancées d'une journée et se tiendront vendredi, a annoncé la Fédération kenyane d'athlétisme. Le gouvernement a promis des funérailles nationales. Kelvin Kiptum était le favori des Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. Il avait battu en octobre dernier le record du monde lors du marathon de Chicago en 2h, 0 minutes et 35 secondes. Il est mort dans un accident de la route il y a 10 jours dans la localité de Kaptagat, dans la vallée du Rift. D'autre part, la Maison-Blanche a annoncé que le président Biden et son épouse Jill vont accueillir le président kényan William Ruto et la première dame Rachel Ruto pour une visite d'État aux États-Unis le 23 mai 2024. Cette visite marquera le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les États-Unis et le Kenya et célébrera leur partenariat.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont mis leur veto ce mardi à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Ce veto est le troisième depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Nous faisons le point avec Jean-Roger Bion.
La résolution préparée par l'Algérie a recueilli 13 voix pour, une contre et une abstention du Royaume-Uni. Le projet de texte qui exigeait un cessez-le-feu humanitaire immédiat, respecté par toutes les parties, s'opposait au déplacement forcé de la population civile palestinienne, alors qu'Israël a évoqué une évacuation des civils avant une offensive terrestre à Rafah. Et il réclamait la libération de tous les otages. Les États-Unis avaient déjà prévenu ce week-end que le texte algérien n'était pas acceptable et ont opposé leur veto. Par ailleurs, le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, est arrivé mardi au Caire pour discuter d'une nouvelle trêve à Gaza. Dans une déclaration samedi, il a renouvelé les exigences du Hamas, même si certaines d'entre elles ont été qualifiées de délirantes par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Après plusieurs réunions au Caire avec les protagonistes, le premier ministre qatari Mohamed Ben Abdel Rahman Al Thani a reconnu que l'évolution de ces derniers jours n'est pas très prometteuse.
En Russie, la mère de l'opposant Alexei Navalny, sa mère appelle le président Vladimir Poutine à lui remettre sans délai le corps de son fils. Sa veuve, Yulia Navalnaya, promet de continuer le combat de son époux. Nanit Talani.
J'en appelle à vous, Vladimir Poutine. Laissez-moi enfin voir mon fils. Je demande à ce que le corps d'Alexei soit rendu sans délai afin que je puisse l'enterrer de façon humaine, a-t-elle déclaré dans une vidéo filmée à proximité de la colonie pénitentiaire où est décédé son fils. Depuis sa mort dans une prison le 16 février, la mère et un avocat d'Alexei Navalny cherchent en vain à accéder à sa dépouille. Selon l'équipe de l'opposant décédé, les enquêteurs russes ont affirmé qu'ils ne rendraient pas son corps avant au moins 14 jours afin de mener une expertise. La veuve d'Alexei Navalny accuse les autorités de cacher sa dépouille pour couvrir un meurtre. Le Kremlin a qualifié de grossière et totalement infondée ces accusations. Dans une vidéo publiée lundi, Yulia Navalnaya a promis de poursuivre le combat de son mari. Elle a aussi assisté à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, appelant les 27 à ne pas reconnaître le résultat de la présidentielle russe de mi-mars qui doit déboucher sur un nouveau mandat pour M. Poutine.
Les États-Unis adopteront vendredi des sanctions majeures contre Moscou à la suite de la mort en prison de l'opposant russe Alexei Navalny. C'est ce qu'a annoncé la Maison-Blanche aujourd'hui. À l'initiative du président Biden, nous annoncerons vendredi un ensemble de sanctions majeures afin de tenir la Russie responsable de ce qui est arrivé à M. Navalny, a déclaré John Kirby, le porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche. Le président russe Vladimir Poutine s'est moqué de son côté de la fuite chaotique de l'armée ukrainienne de la ville d'Adivka dans l'est de l'Ukraine, abandonnée la semaine dernière par les forces de Kiev après des mois de combat. Et puis pour finir au Royaume-Uni, l'audience pour le dernier recours de Julian Assange s'est ouverte ce matin en son absence. Sa défense s'efforce de convaincre la justice britannique d'accorder au fondateur de Wikileaks un dernier recours contre son extradition vers les États-Unis, où il est poursuivi pour une fuite massive de documents. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
Au Nigeria, les chauffeurs de camions-citernes ont entamé lundi une grève contre la hausse des coûts d'exploitation due à la deuxième dévaluation du Naira en un an et contre l'état des routes du pays. NARTO, leur association, fait pression pour que les frais de transport soient plus élevés auprès des vendeurs de carburant en raison de la hausse des coûts. La société minière d'État de la RDC, la GKMINE, veut que davantage de dirigeants locaux siègent au conseil d'administration des co-entreprises pour qu'ils aient leur mot à dire sur la manière dont les actifs sont gérés, a confié à Reuters, dit Robert Lukama, président de la GKMINE. Il estime que cela pourrait aussi garantir la responsabilité, la transparence, le développement communautaire, le respect des règles sur les achats locaux et la formation du personnel congolais. Pour terminer, en Afrique du Sud, le taux de chômage a augmenté à 32,1% au dernier trimestre de 2023 contre 31,9% au trimestre précédent, a affirmé l'Agence gouvernementale des statistiques.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Emer Sahé confirmé comme sélectionneur de la Côte d'Ivoire.
Oui, l'annonce a été faite hier par le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, qui a précisé que c'est un contrat de 2 ans jusqu'à la Coupe du Monde 2026 renouvelable. Emer Sahé a pris les rênes de la sélection ivoirienne en pleine Coupe d'Afrique des Nations au lendemain d'un premier tour désastreux à domicile. Pour Didier Blé, journaliste à la radio de la paix en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une surprise.
C'était la nouvelle la plus évidente. On ne pensait même pas à une autre nouvelle. C'était tellement évident qu'on confirme Emer, sinon ben, tout cela allait créer le courroux du public sportif. Il faut dire qu'après les 4 matchs magiques qu'ils nous ont offerts, on se rappelle donc que l'équipe a commencé de façon flasque et tiède. Et puis la suite, on la connaît. Sauvé par le gong, Emer va assurer l'intérim. Et puis on va battre le Sénégal, le Mali, la RDC, le Nigeria. Tout se métamorphose. Et nous sommes champions d'Afrique.
Didier Blé note toutefois que les défis sont énormes pour Emer Sahé.
C'est vrai qu'on est champion d'Afrique, mais il y aura des moments forts, il y aura des moments faibles, il y aura des temps de vaches grasses, des temps de vaches maigres, des matchs qui ne vont pas marcher, tout ne va pas tourner rond. Il a récupéré une équipe à laquelle il a donné une âme. Maintenant, il faut confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Confirmer Sahé est une bonne chose. Il faut essayer un entraîneur local. Kamara Ibrahim n'a pas été mauvais. Xavi François nous a envoyé en finale. Donc, pourquoi pas avec Sahé, créer des choses et puis, encore une fois, répéter d'autres exploits. Tout ce qu'on pourrait vraiment lui souhaiter, c'est de faire une bonne détection, comme l'a réussi Gasté avec le retour de Seko, avec l'arrivée d'Adengra, de Amani, les garçons en tout cas qui font de très belles choses. Donc, tout n'a pas été mauvais à Gasté, faut-il le rappeler.
Didier Blé, journaliste à la Radio de la Paix, joint à Abidjan.
Les oppositions du tour préliminaire des éliminatoires de la CAN 2025 sont connues.
La Confédération africaine de football a effectué ce mardi le tirage au sort qui concerne les nations mal classées au récent classement FIFA. La Somalie fait face à l'Eswatini, Sao Tomé et Principe affrontent le Soudan du Sud. Le Tchad défie l'île Maurice et Djibouti fait face au Libéria. Les rencontres se jouent en aller-retour entre le 18 et le 26 mars 2024. Les 4 sélections qui sortiront vainqueurs de cette double confrontation vont rejoindre les 44 nations exemptées de ce premier tour pour la phase de groupe des éliminatoires.
Suite ce mardi, des matchs allés des 8e de finale de la Ligue des Champions en Europe.
Le choc de ce soir oppose l'Inter Milan à l'Atlético Madrid. L'Atlético s'est rassuré ce week-end en infligeant une manita à Las Palmas 5-0 face aux hommes de Diego Simeone qui disputera son 100e match à la tête de l'Atlético en Ligue des Champions. Les Italiens seront en pleine confiance après avoir empoché 12 points sur 12 en Serie A. Dans l'autre match de ce soir, deux équipes en pleine progression vont s'affronter à Eindhoven, le PSV et Dortmund du nouveau champion d'Afrique, Sébastien Haller.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Les Guinéens continuent de commenter la dissolution du gouvernement suivi du gel des comptes bancaires et la saisie des passeports des membres du gouvernement. Aucune explication n'a été donnée par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. En attendant la formation d'un nouveau gouvernement, ce sont les directeurs de cabinet qui conduisent les affaires courantes. Reportage à Conakry, Zakaria Gamara.
Les Guinéens s'attendaient-ils à la dissolution du gouvernement ce lundi? Cet analyste politique nous donne sa lecture. Tali Bebari.
C'est une décision, il est vrai, pour beaucoup osée. Aller jusqu'à la dissolution complète du gouvernement, mais dans le contexte actuel, et un contexte de crise et pour beaucoup même d'une certaine panne de la transition, parce qu'en termes de résultats de la part de la gouvernance du CNRD, les populations sont restées sur leur faim. Vous voyez le contexte actuel marqué par les restrictions sur Internet. Donc c'est un contexte déjà très délétère que le pays connaît, et ajouter à cela les conséquences de l'explosion du dépôt de carburant de Conakry, créant ainsi une situation d'aura le bol chez les citoyens.
Si des Guinéens réclamaient depuis quelque temps un changement de gouvernement, les mesures conservatoires prises à l'encontre des ministres sortants par les autorités militaires semble surprendre cette Guinéenne, Djaraï Girassi.
Beaucoup attendaient quand même un remaniement, mais pas une dissolution totale, puisque les gens se disaient quelle était justement l'opportunité d'aller à une dissolution. Pourquoi pas demander au ministre de démissionner, parce que ça intervient, mais dissoudre tout un gouvernement, on estime que c'est grave.
Il a été aussi demandé aux ministres déchus de restituer leurs documents de voyage.
Mais les regards sont tournés vers le futur gouvernement qui devra faire face à des défis, notamment le dialogue politique inclusif réclamé par une partie de la classe politique. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso. Depuis plus d'un an et demi, la presse burkinabé vit une période d'inquiétude relative à la crise sécuritaire. C'est dans son contexte qu'est intervenue la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante au Conseil supérieur de la communication, instance de régulation des médias au Burkina. Particularité de cette équipe, elle arrive par le biais d'une loi qui a permis au président Traoré de désigner le patron du CSC malgré l'opposition des organisations de journalistes. Reportage de Gilles Dasda, un de nos correspondants à Ouagadougou.
1er février 2024, Idrissa Ouédraogo prend officiellement les rênes du Conseil supérieur de la communication CSC. Nommé à ce poste par le président Traoré, le nouveau patron de l'instance de régulation des médias du Burkina parle d'humilité et de travail consensuel sous son mandat. Idrissa Ouédraogo évoque un concept, celui de narratif progressiste.
Afin de faire des métiers concernés par ce domaine-là, des modèles de professionnels pratiques et pragmatiques, contributeurs au développement national, par au minimum un narratif progressiste.
En fait, depuis un moment, les médias burkinabés traversent une période difficile. et la prise de fonction de la nouvelle équipe dirigeante du CSC ne rassure pas tous les acteurs de la presse. Bouraïma Ouédraogo, directeur de publication du journal d'investigation Le Reporter, décrit un climat d'inquiétude.
Il n'y a pas que les médias qui ont un problème. Tous ceux effectivement qui veulent revendiquer la liberté d'expression et de ton ont des soucis effectivement avec ceux qui gouvernent actuellement. Est-ce que avec M. Idrissa Ouédraogo, on va continuer effectivement dans cette perspective de remise en cause des principes et des libertés fondamentales au niveau de la presse, ou bien effectivement, on va aller effectivement vers une sorte de dialogue avec les organisations professionnelles des médias, avec les promoteurs d'entreprises de presse, pour trouver effectivement enfin ce qu'on donne comme contenu à l'accompagnement de l'exécutif dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Pour comprendre les inquiétudes de Bouraïma Ouédraogo, il faut remonter quelques mois plus tôt, novembre 2023, l'Assemblée législative de transition vote une nouvelle loi relative au CSC. Le président de l'organe sera désormais désigné par le président du FASO, au lieu d'être élu par ses pairs conseillers comme avant. Un changement alors dénoncé par le syndicat national des travailleurs de l'information par la voix de son secrétaire général adjoint, Aboubacar Sanfo.
C'est un recul démocratique, c'est vraiment une remise en cause des avancées, des acquis en tout cas que nous avions en matière de liberté d'expression.
Après l'adoption de cette loi, Jean-Emmanuel Ouédraogo, ministre de la Communication, avait tenu à rassurer la presse.
Les journalistes n'ont pas à s'inquiéter tant qu'ils travaillent dans le respect, bien sûr, de la réglementation et que, bien sûr, leur travail ne porte pas atteinte à la réputation des individus, à la cohésion nationale et que leur travail n'est pas porteur de germes, de crise.
Dans la nouvelle mouture de la loi, des agents du CSC ont désormais qualité d'agents de police judiciaire, à même d'accéder à certains équipements et recueillir des informations. Gildas Da, Ouagadougou, VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Nous nous intéressons à présent au collectif Cartographie Sénégal, une initiative citoyenne regroupant une quarantaine de journalistes, cartographes et scientifiques de données. Ce collectif s'est donné pour mission de recenser les victimes de la répression des manifestations depuis juin 2023 au Sénégal, afin notamment de leur donner un nom et un visage. Le reportage de Magat Gueye de l'AFP TV.
En revoyant la cour exiguë de cette maison basse à Dakar, les souvenirs de juin 2023 affluent dans la tête d'Abdallah Badji, un jeune journaliste de 28 ans venu rendre visite à la famille d'El Hadj Mamadou Cissé. Cet étudiant en lettres modernes de 26 ans venait de mourir.
Le journaliste Abdallah Badji.
Le cas qui m'a le plus touché, c'est ce cas-ci. Ce genre de cas montre toute l'importance du journalisme.
Abdallah appartient au collectif Cartographie Sénégal. Il a interviewé la famille de la victime pour dresser le portrait du défunt et faire son travail de journaliste pour documenter, relater les faits et ne pas oublier. Quand Mamadou est sorti de la mosquée le 2 juin, il s'est trouvé pris au piège des affrontements entre manifestants et gendarmes, selon sa famille et des témoins. C'est là qu'il a pris une balle qui a entraîné sa mort. Sa famille espère des réparations.
Abdoulaye Ba est le parrain de la victime.
Nous attendons de l'État que justice soit faite et qu'au moins sa famille soit dédommagée parce que Mamadou était le fils aîné de sa mère et aujourd'hui elle n'a aucun soutien. Mamadou avait 25 ans quand il a été tué et depuis lors il n'y a aucune suite. Justice n'est pas faite.
Depuis le début de la contestation contre le report de la présidentielle annoncée par le président Macky Sall, Cartographie Sénégal fait un travail de fond pour rechercher le plus rapidement possible sur toute l'étendue du territoire les Sénégalais morts durant les manifestations.
Le journaliste Moussane Gom, fondateur du collectif Cartographie Sénégal.
C'est l'usage de balles qui a causé la quasi-totalité des victimes que nous avons recensées, soit 29 en juin, et si je me trompe, 5 en 4 en mois de fin juillet, mois d'août. Là, on en est à 3 pour le mois de février. Une personne qui est jusque-là poursuivie par rapport aux morts qu'on a constatées lors des manifestations. C'est quelque chose de très regrettable et c'est également quelque chose qui déteint dans la réaction parfois des familles. Elle pense que justice ne sera jamais faite pour leurs enfants. Et ça, je pense que c'est quelque chose à rectifier, nécessairement. Aussi bien
pour le temps présent que pour l'avenir, pour faire en sorte que la justice puisse être rendue à ces victimes-là.
Ce travail de recensement des données a permis de dresser un profil des victimes de la répression des manifestations. Il s'agit généralement de très jeunes hommes, de couches sociales défavorisées, morts à la suite de blessures causées par balles, principalement à Dakar et sa banlieue, ou à Ziguinchor, en Casamance, dans le fief d'Ousmane Sonko. Malgré les promesses du gouvernement, aucune enquête n'a encore abouti.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Bénin, un jeune entrepreneur culturel répondant au nom d'Emmanuel Tonigdano Tométine veut donner un coup d'accélérateur à la promotion de l'art contemporain qui ne représente que 0,1% des enchères mondiales d'art. Et pour changer la donne, il mise sur le numérique en créant une application de rencontre et de promotion de l'art contemporain dénommée DICAP. Notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé, l'a rencontrée. Voici son portrait.
Permettre aux artistes plasticiens africains de se faire connaître et aider nos États à faire de cette discipline culturelle un vecteur d'emploi et de richesse. C'est à cela que se résout la plateforme DICAP. Pour Emmanuel Toindaho, Tom est-il le promoteur? Il est temps de bousculer les normes dans ce domaine afin que les artistes majeurs de la scène contemporaine cessent d'être représentés que par des galeries basées en Europe ou en Amérique.
Faciliter le contact entre les créateurs, les acheteurs, les organisateurs de marchés de l'art, créer le contact entre les créateurs et les critiques d'art. Créer le contact entre artistes africains, pouvoir échanger des techniques, discuter des techniques qu'ils abordent, échanger aussi des difficultés. Notre plateforme est une plateforme fédérateur de mise en relation.
Emmanuel Toindaho Tométine n'a pas fait de longues études. C'est à peine s'il a fini ses études secondaires, mais c'est un autodidacte qui a compris très tôt que la valeur d'un homme ne se mesure pas à l'aune des diplômes obtenus, mais à la force des compétences dont on dispose. Et les compétences, notre entrepreneur culturel en est pourvu. Pour lui, la plateforme DICAP est plus qu'un carnet d'adresses et reste une opportunité à saisir.
En créant cette plateforme, nous voudrions que les artistes s'en approprient grâce à notre plateforme. Quand vous êtes un organisateur de marché d'art et que vous avez besoin de voir qui fait quoi, qui est où, avec notre plateforme, vous pouvez parcourir le profil de ces artistes, qu'ils soient sculpteurs, qu'ils soient peintres, qu'ils soient performeurs, qu'ils soient photographes d'art. C'est des profils auxquels vous pouvez avoir accès gratuitement et à tout moment. Le profil que vous recherchez, si vous le retrouvez, c'est aussi pour pouvoir le contacter directement sans passer par nous.
Pour un entrepreneur culturel polyvalent qui a appris en regardant les autres faits, Emmanuel sait combien c'est important de partager son savoir-faire. Pour lui, cette plateforme lui permet de donner une petite portion de la chance que la vie lui a donnée.
Et ma vision dès le départ, c'est-à-dire en 2007, a été tout de suite de créer des plateformes pour la visibilité et pour la promotion de l'art de façon générale. D'aider ces artistes créateurs qui s'investissent beaucoup dans leur création.
La vision de notre jeune entrepreneur qui s'est spécialisé dans la photographie de la scène ne s'arrête pas qu'à l'art contemporain. Il entend mettre sur pied d'autres plateformes pour la visibilité et la promotion des artistes, quel que soit leur domaine de prédilection.
Nous investissons par ma passion pour la photographie de la scène. Il y a déjà une plateforme en construction juste pour les photos de scène. Ça, je le fais d'abord pour moi, pour montrer mon travail depuis 2013, ce travail que j'ai commencé depuis 2013, qui m'a permis d'archiver plusieurs scènes de plusieurs disciplines, de plusieurs nations. Mais il y a d'autres projets allant dans le développement de l'art en utilisant le numérique qui sont déjà en réalisation en notre sein.
Emmanuel considère qu'au Bénin, le secteur de l'art contemporain est encore peu structuré et l'absence d'un encadrement adéquat. Quoi limite la diffusion des créations qui sont tout de même impressionnantes. De Cotonou, je l'ai fait dans les pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'Union africaine face aux multiples crises qui secouent le continent. Le nouveau président de l'organisation, le Mauritanien El Ghazouani, a appelé au retour de la sécurité et de la stabilité ainsi qu'au renforcement de la coopération entre pays membres.
Le 37e sommet s'est tenu dans un contexte de coup d'État, de crise politique comme au Sénégal, ainsi que de tensions entre pays comme celle entre la RDC et le Rwanda, ou encore l'Éthiopie et la Somalie. Quelle feuille de route pour l'Union africaine en 2024? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Clermont Agibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram, bien sûr.